WR62, la radio des collégiens du Pas-de-Calais.
Bonjour à tous, ici Lilou et Alice.
Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre émission Coup de projecteur. Nous sommes au collège du Val d'Outy avec certains élèves de 4e. Nous allons vous parler du développement durable, des associations qui œuvrent sur celui-ci et des initiatives mises en place au collège.
Mais d'abord, Ambre et Cléa, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le développement durable ?
Le développement durable réunit trois piliers : le pilier économique, social et écologique.
Le développement durable est l'idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs propres besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
Plus précisément, il protège l'environnement. Il vise à préserver les ressources naturelles et à réduire la pollution. Il cherche aussi à améliorer la qualité de vie des populations.
Nous avons eu l'occasion de rencontrer différentes structures qui travaillent en lien avec le développement durable, comme par exemple le CPE et le CIMCEA. Yves Austin et Florine Dusselier pour vous expliquer leur vision sur le développement durable.
Alors, CPE, c'est le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement. Ça a été appelé aussi CPE, Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement. Et maintenant, on a franchi un cap. Et donc, nous sommes labellisés tous les 5 ans. L'État, qui voit ce que tu fais, te redonne ta labellisation ou pas. Mais comme nous, tu as compris ce qu'on faisait et ce qu'on aimait, tous les 5 ans, ils viennent non pas inspecter, mais on doit répertorier des choses. On a toujours eu notre relabellisation. Alors au niveau du Nord-Pas-de-Calais, au niveau des CPIE, il y a le CPIE Vallée de l'Authie, Vallée de la Canche, il y a le CPIE des Flandres-Maritimes, près de Dunkerque, il y a le CPIE des Théries, Bassin-Minier, il y a le CPIE de Pied-d'Artois, à Arras, et puis comme le Nord-Pas-de-Calais, nous sommes devenus la grande région Hauts-de-France, eh bien nous avons accueilli dans notre secteur le CPIE de l'Aisne, et le CPE de l'Oise. Mais d'après les noms que j'ai dit, c'est la région Nord-Pas-de-Calais où il y a le plus de CPE. Et nous avons créé l'Union régionale des CPE Hauts-de-France. Et nous avons des réunions en France, à Paris, avec tous les CPE de France, pour voir les améliorations, les objectifs. Donc on travaille localement, mais on a une grande chaîne entre nous. Et puis, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, l'administration, les jeunes, ils sont en contact avec d'autres CPE. Notre personnel est en contact avec d'autres personnels CPE par tous les trucs modernes, là, que M. Austin n'est pas fort. Tu n'as pas une labellisation comme ça à vie. Il faut que, par tes actions et ton personnel, tu dois montrer que tu agis dans les objectifs que tu t'étais donné.
Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, je suis Florine Dusselier, animatrice en agroécologie au sein du CIMCEA. J'ai terminé mes études en 2021 et maintenant je travaille pour réduire les phénomènes d'érosion des sols. Alors le CIMCEA, c'est le syndicat mixte de l'OTI et de la Canche. C'est une structure publique qui agit pour la protection des milieux et de la ressource en eau. Donc concrètement, on préserve les milieux aquatiques et le bon fonctionnement des fleuves de l'OTI et de la Canche. On limite l'érosion des sols et le ruissellement sur le territoire. On agit pour prévenir la sécurité des personnes contre les inondations. Et puis, on agit aussi sur l'aménagement et la gestion de l'eau. La structure est basée à Auchy-les-Aidins. Il y a 10 structures intercommunales sur le territoire et ça représente 349 communes.
Quand j'étais président de la communauté de communes de l'Auxillois, avec tous les villages, tous les agriculteurs, nous avons fait une étude sur les ruissellements qui venaient des champs, donc qui emmenaient l'eau et la terre, et puis ça arrivait à l'Authie. Donc on a fait plein de plantations avec l'accord des agriculteurs en travers, parce que l'étude avait dit que là, il y avait beaucoup d'eau qui passait de terre. Donc ça, c'est une action. Après, nous, on a la chance à l'OTI, quand vous prenez la belle balade qui s'en va pour les pêcheurs, il y a la zone enherbée qu'on a gardée pour les pêcheurs, des tables de pique-nique pour les familles. Donc on fait des choses qui essayent de ralentir le ruissellement de la boue sur le fleuve. Parce qu'on sait que le fleuve, si on ne fait pas ça, il va monter. Donc nous, On a enlevé le barrage à Villancourt, non pas parce qu'il nous gênait, puisqu'il produisait de l'électricité, mais parce qu'on voulait que les poissons remontent, et puis ça laisse plus librement passer l'eau. Donc c'est toutes ces petites actions-là qui font que, après, dans le développement durable, le CPE, il joue un rôle, mais vous, en tant qu'être humain et avec vos familles, vous jouez un rôle dans le développement durable. Il faut beaucoup plus marcher, il faut beaucoup rouler à vélo, utiliser moins la voiture qui pollue. Non, je blague, il faut vivre avec son temps, mais les familles et les gens peuvent jouer des petits rôles. Nous, comme on a des rivières, enfin des fleuves, on est obligé de jouer un rôle très important pour pas que les gens soient inondés et souffrent. Donc préserver une belle nature tout en sachant ce qui peut y arriver. Alors le problème, c'est qu'en réalité, il y a plein de choses qui se passent sur le territoire. Les gens, ils entendent parler du CPE. Les gens, ils disent « Ah ouais, mais ils ont eu l'eau ». Mais par exemple, vous habitez aussi, vous passez avec vos parents en voiture, à pied ou à vélo. En réalité, vous ne savez pas où est le CPE. Il y en a, la plupart. Vous n'êtes jamais rentré. Vous n'avez pas été lire les affiches et les affichettes qui sont partout de tout ce qu'on fait. Donc en réalité, il y a des choses importantes dans là où on habite. Donc avec les professeurs responsables, je vais vous inviter, avec l'accord de Madame la principale, à venir voir le CPE en vrai, dans les bâtiments. Et puis vous allez voir notre personnel, ce qu'ils font, vous allez leur poser la question.
Merci pour ces explications. Maintenant, coup d'œil sur les initiatives locales. Laissons place à Mathis V, Théo H et Lorenzo.
Que faisons-nous pour le développement durable dans l'Auxillois? Des associations, entreprises, bénévoles et certaines personnes contribuent à cette cause.
Comme le CIMCEA, syndicat mixte Canche et Oti, situé à Aydin. Son rôle, s'occuper de nos cours d'eau, de la Canche et de l'Oti, de notre biodiversité. Comme la solution contre la destruction de l'habitat du Martin Pêcheur. Florine Ducellier, membre du CIMCEA, ingénieur agronome, nous explique les grandes lignes de l'association.
Donc concrètement, on préserve les milieux aquatiques et le bon fonctionnement des fleuves de l'Authier et de la Canche. On limite l'érosion des sols et le ruissellement sur le territoire. On agit pour prévenir la sécurité des personnes contre les inondations. Et puis on agit aussi sur l'aménagement et la gestion de l'eau.
Le Martin Pêcheur n'est pas le seul à bénéficier d'avantages. Les agriculteurs également, notamment par la construction de haies qui permettent de limiter le ruissellement de l'eau. Les avantages, ils sont nombreux. Éviter l'écoulement de pesticides dans nos fleuves, éviter les inondations de certaines routes, etc.
Les microplastiques sont également traités. Ces déchets sont nuisibles pour l'environnement et pour notre biodiversité. Par exemple, ces microplastiques sont ingérés par les animaux, puis ils peuvent se retrouver dans notre alimentation. Les enjeux sont énormes.
Un homme l'a bien compris. Cet homme a acquis l'autonomie énergétique, alimentaire et économique. Il est le propriétaire du domaine d'Alvaro. J'ai nommé Sébastien. Il nous présente son domaine.
J'ai reconverti l'ancienne discothèque en écurie active, si on peut appeler ça une écurie active. C'est le principe d'accueillir des chevaux sans... Il n'y a pas de box. Les chevaux ne sont pas enfermés, ils ont accès à l'extérieur en permanence, mais ils ont un accès intérieur à un box gérant qui fait 150 mètres carrés, qui n'est pas lié en permanence. Donc ils rentrent et ils sortent quand ils veulent. Et ça, c'est un atout, on va dire... Un des atouts complets de l'installation du domaine d'Alvaro, car l'installation complète est faite pour dire de fonctionner sous une certaine autonomie. Donc les chevaux ont une grande part dans cette autonomie parce que c'est eux qui vont nous fournir les intrants nécessaires pour nos cultures que je vais mettre en place après au potager et que je vais me servir pour amender un petit peu tous les sols du terrain. Et donc c'est ce terrain après qui va nous permettre de nous nourrir et donc de sortir nos légumes qui vont nous permettre d'atteindre une certaine autonomie financière. Et donc c'est tout un ensemble de petits maillons qu'on met en place sur son terrain pour dire que ce terrain nous permette de vivre en autonomie sans avoir besoin d'aide extérieure. Et après, ces autonomies-là peuvent être, entre guillemets, cultivées à l'horizon d'une région ou à l'horizon d'une commune. Mais il faut qu'après, chacun puisse mettre sa petite main à la pâte et construire une autonomie globale.
En termes d'autonomie, son domaine est idéal. Pour l'autonomie alimentaire, il produit ses fruits et légumes via son jardin. Il les produit de manière spéciale. Il utilise la permaculture. Mais qu'est-ce que c'est?
Alors la permaculture, beaucoup vont rapprocher ça à une méthode de culture. Mais en fait, la permaculture, c'est beaucoup plus vaste. C'est une façon de vivre, on va dire. C'est comment on organise sa vie autour du vivant et comment on arrive à avoir une vie qui est pérenne à long terme et qui ne va pas abîmer l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va toujours chérir le vivant plutôt que d'essayer de le maîtriser. Et c'est une façon de... Il y en a beaucoup qui vont croire que la permaculture, c'est uniquement faire des buts de culture et planter d'une certaine façon. La permaculture, c'est plus un fondement qui va vous expliquer comment organiser vos gestes et votre façon de cultiver, mais aussi bien votre façon de vous nourrir, que la façon de fabriquer votre maison, de façon à ce que ce soit pérenne et dans le respect global de la planète, pour dire de pouvoir transmettre ce qu'on a réalisé par la suite aux personnes qui vont nous suivre. Il ne faut pas qu'on ait dégradé notre environnement, au contraire, il faut qu'on ait réussi à upgrader notre environnement. Il ne faut pas utiliser ce que la planète va nous fournir uniquement dans notre but propre. Le but est justement d'enrichir ce milieu pour dire qu'il soit toujours de plus en plus riche et non de plus en plus pauvre, plutôt que de l'utiliser. Dans la permaculture, on va éviter d'avoir besoin d'intrants sur notre terrain, par exemple, pour cultiver. Dans un champ, on a besoin d'un tracteur, on a besoin d'essence, on a besoin de machines, on a besoin d'engrais pour faire pousser les plantes. Dans un milieu en permaculture, on va éviter d'avoir besoin de tout ça. On va plus s'appuyer sur ce que la nature va nous fournir pour utiliser ce principe de fonctionnement. Je ne sais pas quel exemple vous donner. Je vais prendre l'exemple des pucerons, par exemple. Il y a beaucoup de monde qui va vous dire « Ouais, j'ai des pucerons, qu'est-ce que je peux faire ?» Il y a beaucoup de monde qui me dit « Qu'est-ce que je peux faire contre les pucerons ?» Il ne faut pas voir le problème, il faut voir la solution. À chaque fois, les personnes viennent en me demandant « Qu'est-ce que je peux faire contre ?» Je dis « Non, arrêtez de penser « Qu'est-ce que je peux faire contre ?» Je dis « Pensez à « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ?» C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils ne pensent qu'à mettre du produit pour tuer le puceron. Et donc, ça fait que c'est bien, cette année-là, il n'y a plus de pucerons. Mais l'année d'après, il n'y a rien qui empêche que les pucerons vont revenir. Donc, ils vont devoir remettre du produit tous les ans. À l'inverse, faites l'inverse. Pensez que les pucerons, c'est très bien pour votre jardin. Ce n'est pas néfaste. C'est-à-dire que ces pucerons-là, vous les en avez. Et bien, ce n'est pas grave. Cultivez des choses pour dire d'en avoir encore plus du puceron. Alors, c'est dur à comprendre au début. Vous allez dire, ben non, je ne vais pas mettre plein de pucerons sur ma culture. Eh bien si, il faut faire l'inverse, il faut justement essayer d'en avoir encore plus, parce que justement, si vous avez beaucoup de pucerons, la petite coccinelle qui va passer, là, qui d'habitude survole votre terrain, et elle s'y arrête jamais, parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à bouffer sur votre terrain, vous les tuez tout le temps les pucerons, donc elle n'a pas de lieu de rester sur votre terrain. Si vous avez beaucoup, beaucoup de pucerons, eh bien les coccinelles, eux, ils savent que sur votre terrain, c'est un banquet tous les jours, il y a toujours à manger, eh bien c'est là qu'ils vont venir pondre leurs œufs. Et du coup, l'année d'après, eh ben, c'est là que vous aurez des coccinelles qui, eux-mêmes, vont lutter contre vos pucerons. Et donc, à l'année 3, vous n'aurez plus besoin de rien faire. C'est des coccinelles qui se seront installées naturellement sur votre terrain qui vont manger les pucerons. Si on traite à chaque fois le problème par une action de notre part, on va déséquilibrer le milieu et l'action, on va devoir la faire tous les ans. Et donc, au fur et à mesure des problèmes, ben, ça veut dire que tous les ans, vous aurez des actions supplémentaires à mettre en place parce qu'il y aura toujours des nouveaux problèmes qui vont arriver. Le problème, il faut penser que la nature n'aime pas le déséquilibre. S'il y a trop d'une population dans un endroit, la nature va le régler. Il y a le prédateur qui va s'y installer pour réguler ce truc. Mais il faut penser plus long terme. Et aujourd'hui, l'économie est faite qu'il faut produire tout de suite. Et donc, voilà, les méthodes de culture sont un peu à revoir par rapport au rendement théorique qu'on aimerait avoir tous les ans. Comme ça, on veut que ça produise vite, on veut que ça aille vite. Mais on est en train de détruire l'intégralité du vivant. Aujourd'hui, il a été prouvé, par exemple, dans les zones protégées en Europe, il y a 80% des insectes volants qui ont disparu. 80%. C'est-à-dire que dans la pièce, là, si on est 10, dans 30 ans, il n'en reste plus que 2. Tout le reste, il est mort. Parce qu'on a mis du produit un peu partout. Ça, c'est ce qu'on a fait avec les insectes. En 30 ans de temps, on en a tué 80%. Dans les zones protégées. Je vous laisse imaginer d'aller dans les cultures. Et donc, c'est solutionner les problèmes que l'on a, c'est la nature qui est là pour nous protéger. Et nous, on essaye de jouer un peu à l'apprenti sorcier. Mais la permaculture est un système de fonctionnement différent pour essayer de faire en sorte que la nature se règle plutôt que devienne un problème.
Il possède également plusieurs ruches qui produisent donc du miel. Néanmoins, certains produits, notamment exotiques, ne peuvent pas être cultivés, comme les bananes, les mangues ou le café.
Pour l'autonomie énergétique, il possède plusieurs panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. D'autres panneaux solaires réchauffent l'eau des pluies qui a été récupérée et stockée dans une cuve. Il la filtre pour la consommer, se laver, nourrir ses animaux et arroser ses plantes.
Maintenant, est-ce qu'il est autonome financièrement? La vente de ses fruits et légumes au marché d'Auxil-Château le samedi matin, la présentation de son domaine et les formations de greffe d'arbres lui permettent de gagner de l'argent. Il possède également deux chaînes YouTube. Le domaine d'Alvaro, basé sur l'environnement, et les ateliers d'Alvaro, basés sur son autre passion, la mécanique. Ces deux chaînes lui permettent de compléter ses revenus et d'être à l'aise financièrement.
Vous sentirez-vous capable de mener une vie comme lui? Non? Pourquoi a-t-il choisi de mener cette vie qui est entièrement liée au développement durable? Est-ce un rêve d'enfant ou bien un déclic? Il nous l'explique dans quelques secondes.
On se demande si le chemin qu'on a pris au début, est-ce que c'était le bon ou est-ce qu'il y en a peut-être d'autres? Et donc, à 40 ans, voilà, j'ai quitté une vie d'ingénieur bureau d'études où je construisais des usines complètes dans le monde entier, à une vie beaucoup plus simple, où là, aujourd'hui, je m'occupe de chevaux dans la nature et je protège un petit peu plus le vivant.
Ce domaine possède donc des ruches, un potager plus grand que votre maison, des panneaux solaires et photovoltaïques, un filtreur d'eau, une écurie et surtout, un propriétaire responsable et respectueux de l'environnement. Prenons exemple de cet homme.
Pour conclure, des associations, entreprises et même des personnes engagées contribuent au développement durable, notamment en faisant la rénovation des cours d'eau, la rénovation des habitats marins et terrestres, la récupération de l'eau, de pluie et d'autres engagements que vous diront mes camarades au cours de cette émission.
Vous, auditeurs, contribuez également au développement durable. Quand, me demandez-vous?
En faisant des petits gestes, comme éteindre l'eau quand vous douchez ou quand vous brossez les dents. Le tri des déchets fait partie également des engagements que beaucoup de Français effectuent.
Tout est une contribution au développement durable. Nous avons tout notre rôle à jouer pour préserver notre planète.
Mais il y a aussi des associations qui agissent pour le développement durable, comme le CPIE, que Naël et Léon vont vous présenter.
Naël, tu es auxilois comme moi, tu es déjà passé devant la maison Hulot. Sais-tu qu'il s'agit du siège du CPIE?
Le CP quoi?
Le CPIE, gros malin. Ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. C'est un endroit super important. Ils font plein d'activités pour protéger la nature, aider les gens à mieux vivre ensemble et sensibiliser à l'environnement.
Trop stylé, on peut s'inscrire à des activités alors? Tu as des exemples?
Oh oui, beaucoup. Ils proposent des activités nature, des ateliers sur l'environnement, des animations scolaires, des sorties découvertes, des chantiers bénévoles, bref, que du lourd, pour profiter et apprendre en même temps.
Mais ça existe depuis quand?
Attends, laisse-moi sortir ma machine à remonter dans le temps. Alors, à la base, c'était en 1976 que l'association ATPEVA est née. En 1979, elle est devenue CPIE Vallée de l'Authie. Et depuis 2021, elle s'appelle maintenant CPIE Vallée de l'Authie et de la Canche.
Ouah, même avant que mes parents soient nés, presque.
Ah ah, ouais, c'est du vieux, mais c'est du costaud.
Mais c'est quoi leur but en vrai?
C'est simple, protéger la planète, sensibiliser les gens, proposer des activités pour tous, notamment les jeunes, et aider à dynamiser le milieu rural.
Pas mal du tout. En plus, le CPIE pense aux jeunes et à la planète. C'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui.
Clairement. Sport, environnement, solidarité, bref, ça déchire.
Merci. Le CPIE a aussi une petite sœur, elle, que Mathis FM et Théo L vont nous faire découvrir.
Au départ, elle était un projet du CPIE. En 1995, elle devient une association d'insertion locale et environnementale.
Antoine Cresto en est le directeur depuis 2021. Et nous avons eu la chance de le rencontrer ici, dans notre collège. Cette association est un bon exemple de mise en œuvre d'actions liées au développement durable, car elle sait en allier les trois piliers.
Pour le pilier environnemental, elle intervient dans les communes aux alentours de l'Auxillois. Elle fait également des chantiers participatifs comme planter des arbres, des haies, des fascines ou même encore créer des mares.
L'association peut aussi débroussailler, tendre des pelouses dans des communes, etc. Pour le futur, l'association prévoit même d'élargir sa zone d'intervention.
Pour le pilier social, elle permet à des jeunes d'acquérir une expérience professionnelle. En moyenne, les jeunes restent 24 mois et intègrent ensuite une entreprise.
Pour finir, le pilier économique. Elle reste une entreprise qui veut s'enrichir et perdurer.
Auxi peut donc se réjouir d'avoir une richesse comme celle-ci.
Merci pour ces explications.
Pour finir, Leïla, Lilou R et Lydie vont aborder les initiatives mises en place au collège pour impliquer les générations futures dans le développement durable avec l'interview de Madame Level, professeure d'SVT dans notre collège.
Bonjour, nous allons commencer par vous présenter un projet dirigé par les troisièmes, les chantiers participatifs.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'un chantier participatif? Écoutons un bref témoignage de Madame Level, professeure de SVT.
Un chantier participatif consiste en l'aménagement d'un endroit avec des intervenants ayant des compétences variées. Il y a en sorte une mutualisation des compétences.
Lors de cette sortie, les élèves ont planté des arbres et désherbé des zones de mauvaises herbes pour créer des habitations pour que les insectes puissent se reproduire.
Quel est l'objectif de cette sortie?
Ça nous apprend à être plus en contact avec la nature, savoir vraiment ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas forcément comment planter un arbre.
Pour ce projet, il y a eu des intervenants, notamment le CPIE et le club de marche d'Oxy.
Au collège, il n'y a pas que les troisièmes qui font des projets. Les sixièmes ont également participé au projet Fenêtre sur l'eau.
Pour ce projet, c'est Madame Level, la prof d'SVT, qui va répondre à nos questions. Tout d'abord, qu'est-ce que le projet Fenêtre sur l'eau ?
Alors, c'est un projet mené par le CPIE et financé par l'Agence de l'eau qui consiste à connaître l'importance de l'outil, les zones humides dans notre environnement.
Pourquoi toutes ces années avez-vous fait des projets avec les adolescents ?
Alors, pour emmener mes élèves sur le terrain, ainsi la prise de conscience des impacts des actions humaines sur l'environnement. Il est toujours très intéressant et motivant d'être sur le lieu d'étude.
Pour mieux comprendre les enjeux des zones humides, les sixièmes ont fait une maquette lors de leur sortie.
Les intervenants sont des animateurs du CPIE. La maquette représente le paysage en relief où l'on distingue bien le bassin versant et ainsi le transport de l'eau et des matériaux déplacés par l'eau.
En quoi ce projet s'inscrit dans le développement durable ?
Il fait partie de notre environnement, nos conditions de vie et surtout de prendre conscience que les actions humaines ont des conséquences sur la qualité de l'eau, la biodiversité. Par exemple, l'arrachage des haies sont responsables en partie de l'érosion des sols et des inondations. D'où l'importance de garder des zones humides et la nécessité d'un réaménagement du territoire pour éviter ces inondations connues dans les mois précédents.
Qu'est-ce que les élèves ont retenu sur ce projet ?
Alors, en bénéficiant de sorties sur le terrain, ils ont découvert la biodiversité dans l'outil, dont la microfaune aquatique, les espèces végétales et animales autour de l'outil. À l'issue de ce projet, ils font une restitution sur l'importance des végétaux au bord du cours d'eau.
Merci beaucoup. Nous félicitons tous les élèves et professeurs qui ont participé à ce projet. Un grand merci à nos intervenants, le domaine d'Alvaro, le CIMSEA ou encore l'association Elle.
Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
WR62, la radio des collégiens du Pas-de-Calais.